Salut à tous, ici Zeni et comme promis, voici un nouvel épisode du Poké Freak Show seulement une semaine après la sortie du pilote. Merci pour vos retours pour l'épisode sur notre Tsukinoko adoré, mais aujourd'hui nous allons partir encore plus loin car nous allons parler d'un trousseau de clés.
Non, partez pas.
Bon, si vous avez joué à Pokémon jusqu'à la 6ème génération, vous avez d'ores et déjà deviné de qui nous allons parler. Mais restez quand même car nous parlerons aussi du folklore européen, de belles légendes médiévales et du type fée en règle générale. Alors allons-y, mais avant, faisons un petit détour dans le passé. En janvier 2013, le monde de Pokémon a été bouleversé par l'annonce de la 6ème génération, celle des jeux de Pokémon X et Y, avec la révélation des trois starters, Marisson, Fennec et Grenousse. Puis durant toute l'année, nous avons eu de cesse d'avoir que de nouvelles révélations chaque mois pour ce jeu qui devait sortir au mois d'octobre de la même année. Durant les 10 mois qui séparaient ces deux événements, on nous a révélé les légendaires, les nouveaux Pokémon, l'arrivée du jeu en 3D, et énorme surprise, le fait que la région de Kalos où se déroulait le jeu s'inspirerait de la France. Mais on nous a aussi introduit les méga évolutions, donc des évolutions un peu à la Digimon dont sont concernés entre autres Florizarre, Tantank et Dracaufeu, ce qui a déjà pas mal bouleversé le metagame. Mais deux autres événements vont particulièrement attirer notre attention aujourd'hui. Tout d'abord, le 14 février 2013, donc le jour de la Saint-Valentin, un Pokémon a été révélé. Et pas n'importe lequel, il s'agissait de la 8ème évolution d'Evoli, Nymphali. Un Pokémon rose et blanc avec des rubans et des nœuds de papillons partout et de grands yeux remplis de bienveillance. À sa révélation, ce Pokémon n'avait pas vraiment fait l'unanimité, donc vous vous doutez bien que nous parlerons plus précisément de celui-ci un jour. Cet épisode sera fabuleux. Mais en tout cas, sa révélation a suscité plein de questions, dont la principale était... mais... il est de quel type ? Game Freak ne l'avait pas révélé à sa sortie, donc les spéculations allaient de bon train. On disait qu'il pouvait être de type insecte, normal, combat, vol, avec chacun ses preuves et ses contre-preuves. Mais une théorie semblait plus populaire, celle d'un nouveau type. Un type qui pourrait être introduit dans cette 6ème génération, en quelque sorte un type lumière, qui s'opposerait au type ténèbres introduit dans la 2ème génération, ou une sorte de type mystique. En effet, le nom de Nymphali vient de nymphe, et son nom allemand Felinara fait directement référence à fée. Donc ça semblait être l'alternative la plus logique. Mais un nouveau type, dans Pokémon, chose qu'on n'avait pas vue depuis la 2ème génération, ce serait totalement improbable. Et pourtant, c'était bien ça. Le 11 juin 2013, le type fée a été officiellement révélé au grand public. Un type qui, effectivement, s'opposait au type ténèbres, mais aussi au type combat, et surtout au type dragon. Il faut savoir que le type dragon à l'époque était beaucoup trop omniprésent dans la grosse compétition de combat Pokémon, donc autant vous dire que cette révélation a beaucoup bouleversé les choses. De l'autre côté, il est aussi sensible au type acier et poison, deux types à l'inverse peu représentés en tournoi de stratégie. En clair, le type fée était donc là pour rééquilibrer le jeu, ce qui en faisait une excellente chose. Avant ça, Trioxydre de type dragon et ténèbres était le roi des combats, mais ça, c'était avant. En plus des combats stratégiques, le monde de Pokémon a eu d'autres chamboulements. Par exemple, beaucoup de Pokémon d'ancienne génération ont gagné un nouveau type, que ce soit en remplacement de leur ancien type, Togepi, la famille Milofey ou la famille Snubbull, ou en plus de leur ancien type, comme pour les familles de Rondoudou, Marill et Misdibule. Évidemment, nous avons aussi vu l'arrivée de tout nouveaux Pokémon s'inspirant directement du folklore des fées, et donc l'introduction de nouvelles légendes. Florges, Diancy et le légendaire Xerneas sont complètement dedans, ainsi qu'un autre Pokémon. Un Pokémon qui a finalement plus levé les interrogations que les rêveries, bien que lui aussi s'inscrit dans cet univers-là. Mais cette inspiration est plus subtile, plus cachée, puisque hélas, les gens s'arrêtent plutôt sur sa forme physique. Car aujourd'hui, nous allons parler du Pokémon numéro 707, Trousselin. Trousselin, ou Klefki en anglais, est un Pokémon de la 6ème génération donc, celle dont nous venons de faire l'historique. De type fée donc, mais aussi de type acier, il partage ce double type avec Misdibule et Magerna. Ce petit Pokémon de 20 cm vit principalement à Kalos, autour de l'hôtel Désolation, un édifice en ruine non loin de la Frescale qui a été transformé en skatepark. Alors pour vous décrire Trousselin, il est important de l'assimiler à ses capacités de combat. Donc parlons un peu de stratégie Pokémon. Donc en stratégie, Trousselin s'impose déjà comme un choix intéressant pour les connaisseurs. Déjà parce que grâce à son double type, les deux fléaux des fées, à savoir l'acier et le poison, ne lui font rien. mais sa plus grosse qualité réside dans son move pool très riche. Pour preuve, il est dans le tierce underused, le second palier de Pokémon les plus utilisés en stratégie, derrière les Pokémon interdits. En bref, sans pour autant être un incontournable, notre petite fée est très utile. Déjà, son double type est un avantage sûr, mais il possède aussi l'un des meilleurs talents pour un Pokémon de soutien, le talent Farceur. Ce talent lui permet, dans un tour, de lancer une attaque non offensive en priorité, c'est-à-dire qu'il peut paralyser ou endormir un adversaire avant même que ce dernier ne l'attaque, et ce, quelle que soit la vitesse de cet adversaire. Qui plus est, il a accès à des attaques comme Pico, Cage Éclair ou Toxique, donc des capacités qui peuvent bien gêner l'adversaire. Bref, malgré des stats assez timides, il reste un choix de qualité en tant que soutien, c'est-à-dire, en quelque sorte, en tant que métronome du jeu. Il inflige des dégâts indirects aux adversaires et laisse les Pokémon plus offensifs finir le travail. Retenez bien ça, car nous en reparlerons plus tard. En tout cas, ses belles qualités ne résident pas que dans les stats. Beaucoup apprécieront sa participation dans l'anime aussi, parce que dans l'anime, il n'a pas droit à un épisode pour lui, non, trop banal. Lui, il a droit à son court-métrage dédié. Vous savez, les petits courts-métrages pour introduire les films Pokémon. Eh bien, il est le héros de celui du 17ème film, celui sur Oopa. Dans ce short, et accompagné de Pokémon du Pokégroup, on le voit récupérer les clés magiques permettant d'accéder à des lieux fantastiques, comme les milieux naturels de Jirachi, Manaphy et Victini. Bref, une petite aventure magique que Trousselin propose à Pikachu et ses amis qui est facilement trouvable sur YouTube, si vous voulez un peu d'émerveillement. Trousselin y est présenté dedans comme un Pokémon joueur et sympathique qui adore voyager. Ce court-métrage ressort d'ailleurs l'une des caractéristiques de Trousselin, c'est un collectionneur de clés. Les différents Pokédex du jeu vont d'ailleurs dans ce sens, voyez plus tôt. Déjà, le Pokédex de Pokémon X est formel, ce Pokémon collectionne les clés qu'il agite devant ses ennemis pour les intimider. Celui de Soleil nous dit qu'il ne peut s'empêcher de se faufiler dans les foyers pour envoler les clés. Et Pokémon Lune rajoute qu'il les collectionne pour une raison inconnue. Bon, au moins c'est clair, Trousselin vole et ramasse les clés pour pouvoir les collectionner. Mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est peut-être ce mystère qui fait sa force. Vous croyez pas ? Donc, en résumé, qu'avons-nous appris jusque-là ? En théorie, Trousselin est un Pokémon qui a tout pour plaire. Excellent en stratégie, un bon capital sympathique dans l'animé, avec une apparence mignonne et joueuse, représentant un nouveau type innovant qui rééquilibre le jeu, et une description qui laisse présager des choses mystérieuses. Bref, son potentiel amical était très élevé. Il avait vraiment tout pour être un Pokémon apprécié de tous. Et pourtant, si on en parle aujourd'hui, c'est bien qu'il y a une raison. Je dirais même que, finalement, il est à la 6ème génération ce que Insolordo est à la 2G, à savoir le Pokémon qui, pour beaucoup de gens, rabaisse toute la génération. Mais pourquoi cette haine ? Qu'est-ce qui peut le gâcher ? Eh bien, regardez-le bien. Ouais, Trousselin est un trousseau de clés. Voilà. Un trousseau de clés dans Pokémon, soit un objet du quotidien. Le Pokémon a même été construit comme un trousseau de clés. Il suffit de voir le court-métrage cité plus haut. Et puis son attaque signature est Verrou Enchanté. C'est juste un trousseau de clés et nous rappelle l'un des fameux sketchs du joueur de grenier à ce sujet. Car dans le cœur des gens, un Pokémon objet est forcément un manque d'originalité de la part de Game Freak. Il suffit de voir le traitement également réservé à Lugulabre, Magnéti, Trépassable, Clic-Ti-Clic, Miasmax et Sorbouboule. Mais bizarrement, Trousselin est peut-être celui qui est le plus dénigré de ce côté. Beaucoup pensent que l'origine de Trousselin est très banale, qu'il aurait été créé un jour où un développeur aurait fouillé sa poche pour trouver une idée de Pokémon et aurait retrouvé dedans un trousseau de clés. Et paf, ça aurait donné un Pokémon. Bon, si c'était le cas, honnêtement, j'aurais trouvé ça plus drôle qu'autre chose. Mais non, si on parle de Trousselin aujourd'hui dans cette émission, c'est bien parce que son origine est ailleurs. Et j'ai même envie de dire qu'en fait, Trousselin possède l'une des backstories les plus inventives de Pokémon. Car l'idée du trousseau de clés ne sort pas de nulle part en fait. Elle a un sens, et je m'en vais vous l'expliquer. Mais avant, revenons au type fée. Donc l'arrivée du type fée dans l'univers de Pokémon avait un but premier, équilibrer le metagame du jeu. Car avant ça, les types dragon, ténèbres et combat n'avaient que deux faiblesses chacun, tandis que le type poison était fort que contre le type plante et l'acier, que contre la glace et la roche. Le type fée était en quelque sorte un chaînon manquant qui devait tout rééquilibrer. Mais pas seulement en fait. Au moment de sa révélation, beaucoup de joueurs s'étaient demandé comment des petites créatures toutes girly comme Canaille, Cocotine ou même Rondoudou pouvaient bien terrasser de puissants dragons comme Karchakrok ou Tranchebon. Où est la logique derrière tout ça ? Comment des fées peuvent vaincre des dragons ? Eh bien la réponse est simple, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot « fée ». En effet, on peut se contenter d'une réponse terre à terre et penser que les fées sont des fées, soit des petites créatures volantes à l'apparence féminine. Mais en réalité, la définition est plus large. Fée pourrait plutôt désigner le domaine des contes de fées en règle générale, ou ce qu'on appelle les créatures du petit peuple, à savoir les lutins, les farfadets et toute autre créature mythique issue du folklore européen. Et ça tombe bien car Kalos s'inspire fortement de l'Europe, et plus particulièrement de la France. Car oui, on le verra souvent dans cette émission, mais la présence de certains Pokémon dans certaines régions n'est pas toujours laissée au hasard, comme je l'avais aussi montré la semaine dernière avec un Solorodo. Bon, on n'est pas passé loin d'un Pokémon beurre salé du côté de la Bretagne, mais à côté on a Chevroom, dont la présence ici peut être une référence au Dahu, ou Cocotine qui s'inspire directement des danseuses du French Cancan. Dans tous les cas, que ça soit lié aux fées, aux contes de fées, comme au petit peuple, on peut y retrouver de nombreuses théories liées aux relations entre les types. Commençons par le type dragon. Pourquoi les Pokémon fées poutrent le cul des dragons au point que les attaques dragons leur sont totalement inefficaces? Eh bien c'est simple, dans énormément de contes de fées, il est question de combattre un dragon. Les dragons dedans, c'est la réincarnation du mal, l'ennemi à tuer pour un héros. Et jamais, jamais, le dragon ne gagne à la fin. Les contes de fées et tout ce qui rapporte sont donc la némésis de ces créatures mythologiques, si bien qu'elles ne peuvent pas les vaincre. Petite parenthèse au passage, savez-vous comment on appelle un tueur de dragons? On appelle ça un sauroctone. Un type fée est donc un sauroctone. Concernant le poison et l'acier, il y a deux théories. Soit cette faiblesse est là pour symboliser la mort des folklores durant l'époque industrielle, industrie représentée par ces deux types, soit c'est plutôt au cas par cas. Comme nous le souligne Wikipédia, beaucoup de ces créatures sont sensibles au fer et au métal, d'où cette faiblesse. Concernant le poison, en gros, ça part du principe que les fées sont des êtres purs, tandis que les Pokémon poison sont impurs. Donc les Pokémon poison infectent les fées par leur impureté? Ouais, à voir. Perso, je préfère la théorie de l'ère industrielle. Enfin, pour les types ténèbres et combat, c'est beaucoup plus subtil. Dans un premier temps, il faut savoir que le type ténèbres symbolise le mal dans sa forme la plus pure. Ce type symbolise l'enfer, le malin, la malice, et en japonais, il peut même se traduire par « evil type ». Donc, le type fée serait le type du bien qui s'oppose à celui-ci, et comme on le sait tous, le bien triomphe toujours du mal? Probable. Mais le type combat alors, on le place où dedans? Alors une première supposition partirait du principe que le type fée n'est pas seulement un type lié aux fées ou au petit peuple, mais serait avant tout un type lumière. Le type du bien, de la pureté et de la religion? Plus précisément de la religion catholique vue en France. Ça se rapporte bien, le type dragon serait alors le vrai type des contes de fées et rentrerait complètement dans la mouvance du prosélytisme religieux durant le Moyen-Âge et des légendes créées de toutes pièces par l'Église qui parlent de la lutte contre les croyances païennes, le mythe de Saint-Georges étant la principale illustration. De même, la religion qui devient plus faible suite à l'ère industrielle se rapporte à ça, et le bien triomphe toujours du mal du type ténèbres. Quant au type combat, ça se rapporterait au dogme religieux qui s'oppose à la violence, et donc au type combat, je suppose? Ouais, la théorie pourrait se tenir. Mais bon, à part la méga évolution de Namewi qui est clairement un ange, on ne retrouve pas trop ça dans ces types. Donc même si elle est intéressante, elle ne tient pas trop. Passons donc à la seconde théorie, celle qui se tient. Parce que depuis quelques minutes, je vous parle du bien et du mal. Est-ce que le type fée est effectivement le bien, le type lumière qui s'oppose au type ténèbres? Et si en fait, ce type-là était juste au-dessus de tout ça? Et si le type fée, c'était le type neutre en fait? En effet, à cause des Disney qui ont bercé notre enfance, on a tendance à penser que les fées sont forcément bonnes. En vérité, les fées et toutes les créatures de la forêt sont plutôt des aides, des créatures dont toute la lutte entre le bien et le mal les dépasse, et qui préfèrent agir en suivant le camp qui les arrange le plus. Genre ceux qui protégeront leur habitat naturel par exemple. Car on peut citer la marraine de Cendrillon ou les bonnes fées de la Belle au Bois Dormant comme fées loyales bonnes, mais quid de la fée Carabosse ou de la fée Morgane certifiée 100% maléfique? Et même dans le roman Peter Pan de J.M. Barrie, la fée Clochette a une morale assez fragile. Et encore, je vous parle des fées là, mais pour les autres créatures c'est encore pire. Les léprechauds par exemple, c'est de vrais connards. Du coup, le type fée est sans doute au-dessus du bien et du mal. Le mal donc, c'est le type ténèbres. Et le bien du coup, ça serait le type combat? En fait, ça serait logique tant on peut associer ce type à Siegfried, Hercule, Roland, Lancelot ou aux braves et vaillants paladins. Le type combat, c'est les héros légendaires en fait. Et c'est d'autant plus vrai dans la mesure où le combat bat le ténèbre. Donc voilà, on a trouvé la logique derrière ces types dans Pokémon. Le type fée est donc le type de la neutralité, des créatures qui ne suivent que leur libre arbitre et qui sont au-dessus des luttes entre le bien et le mal, des créatures qui peuvent être bienveillantes et des escrocs à la fois. Et vous vous en doutez, il existe un Pokémon en particulier qui prouve parfaitement tout ça. Et je pense que vous savez de qui je parle. Déjà, si vous vous souvenez des caractéristiques en stratégie que j'ai données, vous avez bien compris que Trousselin répondait bien à tout ça. C'est un Pokémon qui ne cherche pas à attaquer frontalement, mais plutôt à embêter. Le talent qui fait sa renommée s'appelle littéralement Farceur. Il ne cherche pas forcément à infliger de gros dégâts à son adversaire, mais plutôt à tourner le cours du combat comme il le souhaite. Les farces, il n'y a rien de plus neutre. Et vous vous en doutez, le petit peuple adore en faire. Les fées adorent jouer des humains, que ce soit pour les punir ou juste pour rire. Ça peut être simplement bouger des cailloux pour perturber les passants, comme on le retrouve dans les légendes bretonnes, ou même voler des choses pour les remettre à leur place ensuite afin de bien perturber leurs victimes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre vos clés, de chercher partout dans votre salon où elles pouvaient être pendant des heures, pour au final les retrouver au tout premier endroit où vous les avez cherchées? C'est la blague préférée du petit peuple. Ce jeu marche aussi avec votre portefeuille, et bien évidemment avec votre télécommande. Dans beaucoup de folklore, on accuse directement les fées quand ça arrive. En tout cas, cette tradition est la source d'inspiration de Trousselin. Toutes ces légendes de petits vols, de clés perdues, de lutins collectionneurs de slip, tout ça, c'est l'origine de Trousselin. Plus que n'importe quel autre Pokémon de type fée, Trousselin symbolise cet aspect des fées bien loin de la source de bien et de la lumière qu'on leur assimile tout le temps. Trousselin existe pour nous montrer que les créatures du petit peuple ne sont pas de gentils petits lutins tout mignons qui nous aident, mais qui peuvent aussi jouer et se moquer de nous. Mais bon, je vois certains rageux quand même s'indigner. Oui, ok, cette histoire est bien mignonne, mais ça justifie pas un tel design. Ça reste un trousseau de clés, mon sang. On ne veut pas d'un trousseau de clés. Il aurait pu faire ça d'une autre manière, quoi. À ça, je vous répondrai oui, mais on ne sait pas à quelle époque se passe Pokémon. Le rapport, j'y viens. Comme je l'ai dit, Trousselin vit autour de l'hôtel Désolation à Kalos, au nord-est de la Frescale. La Frescale, selon les sources, est la ville qui s'inspire de Reims. Donc le coin autour de cet hôtel pourrait être les Ardennes. Les Ardennes en France, c'est un peu la Bretagne de l'Est. Cette zone possède beaucoup de folklore lié au petit peuple, et principalement des lutins. Après tout, les Ardennes c'est juste à côté de la Belgique, et la Belgique, c'est le pays des Schtroumpfs. Dans la région, on y retrouve un large bestiaire de créatures fabuleuses. Mais contrairement à la Bretagne qui possède quand même quelques petites créatures bienveillantes, ici on a soit des créatures clairement maléfiques comme les Annequins ou les Pipi Van Van, qui noient les voyageurs dans la Meuse avant de danser autour de leur cadavre pour se moquer de lui, soit des créatures farceuses. On a aussi les croqueurs d'os qui sont carrément nécrophages, mais ça c'est encore autre chose. Mais sinon, parmi les lutins farceurs, on retrouve aussi le Koussieti. Cette créature fort sympathique, qui s'apparentait plus à un nain des forêts, aimait tendre des pièges pour voler du linge, entre autres. Mais maintenant, imaginons. Peut-être que par la suite, il s'est dit que, comme beaucoup d'autres créatures du petit peuple, ça serait quand même mieux de voler des clés pour pouvoir accéder à plus de linge. C'est pas bête. Et puis au fil du temps, il a commencé à oublier le linge pour ne se focaliser que sur les clés. Après tout, une créature kleptomane reste kleptomane, mais peut changer de spécialité. Et à ce moment-là, continuons d'imaginer, peut-être qu'il aurait commencé à réfléchir à de bonnes solutions pour mieux envoler. Les techniques de camouflage pour bien se cacher dans une maison, et voler les clés au moment où les humains ne s'y attendent pas. Pas forcément devenir invisible, mais juste se camoufler. Après tout, on perd nos clés, mais avons-nous déjà vu la fée qui nous les volait? Au fil des années, les techniques du Koussieti se seraient développées, si bien qu'il aurait lui-même commencé à muter. Et c'est là où je veux en venir. Peut-être que le monde de Pokémon se passe des milliers, voire des millions d'années dans le futur, si bien que le Koussieti aurait eu le temps d'évoluer, dans le sens le plus darwiniste du terme. Son corps aurait changé pour acquérir des caractéristiques les plus proches de son objectif, à savoir le vol de clés, mais aussi acquérir des appendices lui permettant de les stocker. Et c'est comme ça qu'il est devenu Trousselin. La théorie comme quoi Pokémon se passerait dans un futur plus ou moins éloigné fait partie de mes théories préférées, et il est possible que je consacre un épisode entier à ça. Mais pour le moment, il vous faudra vous contenter de ce teasing, car j'en ai pas fini avec Trousselin. D'autant que je vous vois très sceptique. C'est un peu gros, non? Eh bien, pas tant que ça. Et je vais vous le prouver en deux points. Déjà en fait, l'évolution peut vous surprendre, car elle permet à des animaux de se cacher et de collectionner des choses en fonction du milieu dans lequel ils vivent. C'est ça l'évolution au fond. De nombreux crabes ou oursins réussissent facilement à se cacher en collectant très aisément des choses autour d'eux dans les fonds marins par exemple, et de nombreux animaux auraient même muté pour s'adapter à l'évolution de leur environnement bien plus vite que vous ne le croyez. Donc pourquoi ça ne serait pas le cas de Trousselin? S'il partait d'une créature déjà de base kleptomane et dont c'est même le principal but, il est logique qu'au bout de quelques milliers d'années, son corps se soit adapté à ses farces. D'ailleurs, cette théorie pourrait s'élargir à tous les Pokémon objets, Voltorb et Electrode notamment, qui se sont totalement adaptés à leur environnement actualisé. Sans compter les spectres qui ont pris possession d'un objet, les Pokémon de ce genre ne sont pas si ridicules que ça, finalement. La seconde preuve de ce que j'avance est liée au Kousieti directement. Selon la légende, sa présence s'accompagne de cris. Il crierait « Okusieti, Okusieti ». En bref, il crie le nom de son espèce. Ça vous rappelle rien? Est-ce qu'on n'aurait pas là un Pokémon? C'est d'autant plus intriguant que Kousieti ressemble beaucoup phonétiquement à Kulefi et Klefki, respectivement les noms japonais et anglais de Trousselin. Son cri aurait juste un peu changé au fil des années. Bref, est-ce qu'à travers les légendes ardennaises et à l'instar du Tsukinoko présenté la semaine dernière, nous n'aurions pas là tout simplement l'ancêtre d'un Pokémon? Est-ce que nous n'aurions pas là la preuve irréfutable que les Pokémon finiront par exister? Ou alors que, vu que Trousselin est aussi seul dans sa lignée évolutive, ça ne serait pas un Pokémon à proprement parler, mais juste une espèce de petit peuple qui essaie d'exister dans ce nouvel univers peuplé de Pokémon? À voir. Donc pour conclure cet épisode, Trousselin est là pour tenter de nous prouver deux choses. Déjà qu'une créature de conte de fées n'est pas forcément bienveillante. Ne soyez pas naïf, si un jour au détour d'un bar irlandais vous croisez la route d'un leprechaun, ne partez pas du principe qu'il sera gentil avec vous, ça pourrait vous être fatal. La seconde chose est moins évidente. Un Pokémon ressemblant à un objet n'est pas un objet. Son apparence peut s'expliquer par l'évolution. Et c'est aussi le cas de Voltorb, Lugulabre et les autres. Ne vous contentez pas de leur apparence et n'accusez pas Game Freak de n'avoir aucune imagination, car ces créatures pourraient bien vous surprendre. Surtout si ce Pokémon objet en question pourrait vous faire des pranks. Bref, de par son type, ses capacités et surtout l'évolution et la backstory qu'il pourrait enfermer, Trousselin est le Pokémon trompeur. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Peut-être qu'à partir de maintenant, vous verrez vos trousseaux de clés d'un œil différent et vous vous méfierez de vos objets du quotidien qui peuvent cacher un esprit farceur. Mais au moins, j'espère que grâce à moi, vous aurez fini par légitimer l'existence de Trousselin. Après ces deux épisodes en une semaine, nous allons passer à un rythme de croisière d'un épisode tous les 15 jours. Donc le troisième épisode sera dans 2 semaines. Un épisode consacré à un Pokémon qui existe depuis quand même pas mal de temps. Mais je suis sûr que si je vous dis son nom, vous me répondrez... Qui ? Dans tous les cas, n'oubliez bien évidemment pas de vous abonner au podcast, de réagir à l'épisode et de soutenir Radio Kawa. À dans 2 semaines, ciao !